Radio Okapi. Grande interview.
Le cadre de concertation de la société civile met en garde la présidente de l'Assemblée nationale et certaines confessions religieuses qui tentent de désigner d'une façon cavalière le président du prochain bureau de la CENI. À en croire le président de la CIMOCEL, l'une des plus importantes missions d'observation électorale du dernier processus 2018, passer à la désignation des animateurs de la CENI sans évaluer le dernier processus et réformer le système électoral risque d'amener le pays dans un chaos électoral en 2023. Pour en parler, grande interview reçoit dans ses numéros Bishop Abraham Djamba. Avec lui, nous parlons notamment de toutes ces tractations autour de la désignation des membres du prochain bureau de la CENI, des irrégularités des dernières élections et de la nécessité de la réforme du système électoral. Produite avec le concours de Kéline Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Grande interview, c'est parti! Bishop Abraham Djamba, bonjour.
Bonjour Michel.
Des tractations pour la désignation des prochains animateurs de la CENI sont déjà en cours. Comment avez-vous analysé la démarche des confessions religieuses avec la bénédiction du bureau de l'Assemblée nationale?
Bon, vous le dites bien, ce n'est pas seulement la démarche de confession religieuse, mais c'est plutôt à la fois l'Assemblée nationale par sa présidente, mais aussi avec les confessions religieuses. Disons que nous avons jugé cette démarche un peu cavalière et précipitée. Nous avons pensé que c'est une grave erreur que de pouvoir se précipiter aujourd'hui à pouvoir mettre sur pied les organes de la CENI, parce que tout simplement, quand on regarde la loi qui organise la CENI, eh bien, la loi n'est pas très claire sur l'autorité qui initie donc le processus de désignation des membres de la CENI. Mais bon, on peut se poser la question, est-ce que c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui doit initier? Est-ce le président de la République? Est-ce les composantes? Toujours est-il que nous venons d'un processus, et ce processus a montré qu'il y avait beaucoup de faiblesses, beaucoup d'irrégularités. Et donc, il y a eu des missions d'observation électorale nationale qui se sont exprimées là-dessus et qui ont fait des recommandations. Il y avait les partis politiques, que ce soit du côté de la majorité, du côté de l'opposition. Il y a eu des voix qui se sont levées pour dire qu'il faudrait réformer la CENI. Nous sommes donc dans cette instance où, selon les principes de gestion des processus électoraux, où on évalue ce qui s'est passé avant de pouvoir déclencher un nouveau cycle. Et donc, à cette étape ici, c'est l'évaluation et les réformes. Et donc, aller très vite en besogne pour désigner les animateurs, c'est perpétuer un peu les faiblesses des processus passés.
Vous vous êtes réunis lundi dernier au sein du cadre de concertation des organisations de la société civile pour débattre de la question. Qu'est-ce qui est ressorti de vos discussions?
Ce n'est pas seulement le lundi dernier, mais déjà le vendredi, nous nous sommes retrouvés avec quelques organisations intéressées dans la question électorale, des organisations des droits humains, les mouvements citoyens. Nous avons analysé la situation et nous avons tous convergé à affirmer encore une fois que il faut d'abord les réformes électorales avant de pouvoir désigner les animateurs. Et après cela, nous avons fait un appel à tous les citoyens de bonne volonté, en tout cas, qui pourraient appuyer un mouvement national pour faire comprendre, en fait, à tous les décideurs qu'il y a intérêt à ce que toutes les parties prenantes se retrouvent ensemble pour pouvoir penser ou repenser notre processus électoral et prendre les bonnes décisions, donc fixer les bonnes règles du jeu avant de repartir dans un autre processus. C'est ce qui est ressorti aussi dans la réunion que nous avons eue avec le cadre de concertation de la société civile lundi. Donc les organisations de la société civile, en tout cas les principales organisations, les grandes fêtières de la société civile, sont en train besoin d'adhérer donc à ce point de vue et de réclamer à toutes les parties prenantes, les autorités, les institutions comprises, qu'il y ait d'abord des réformes avant de pouvoir mettre sur pied les organes de la CENI.
La majorité des confessions religieuses ont soutenu la candidature de Ronsard Malonda, l'actuel secrétaire exécutif national de la CENI. N'est-ce pas là le meilleur profil de technicien pour la présidence du prochain bureau?
Le processus électoral a un critère fondamental, clé, c'est l'inclusion. Si dans un processus on n'a pas le consensus, eh bien tout est vicié. Ce n'est pas une question de profil, pas une question de diplôme ou d'expertise. Donc, il faut que les parties prenantes se mettent d'accord. Et déjà, le fait que vous parlez de la majorité, il y a huit confessions religieuses qui se sont engagées dans cet exercice. Déjà, le fait qu'il y ait ce tiraillement, ce controverse autour de la désignation du président de la CENI prouve à suffisance que on devrait d'abord passer par les réformes. Parce que ce système de désignation ou ce processus de désignation de membres de la CENI, que ce soit les présidents et autres, a démontré que aujourd'hui on peut se poser la question que sur son efficacité. Parce que chaque fois qu'il y a eu désignation d'un président de la CENI, il y a eu contestation. Il y a contestation, mais nous avons évolué avec cela. Et vous savez, lorsque la personne du président de la CENI est contestée, c'est tout le processus qui en pâtit, parce que ça signifie que on n'a pas confiance. Et à partir du moment où on n'a pas confiance dans le processus, c'est la catastrophe, parce que nous allons partir de contestation à contestation. Et ce sont les contestations qui amènent la mort des citoyens congolais. Nous voulons cette fois-ci d'un processus qui pourrait faire qu'on ne puisse plus avoir des morts après la proclamation des résultats, parce que toutes les parties se seraient convenues, auraient été d'accord avec ce qui est en train de se mettre en place.
Mais personnellement, qu'est-ce que vous reprochez à la personne de Ronsard Malonda qui est dans le système depuis 2006? Aujourd'hui, on peut supposer qu'il a acquis suffisamment d'expérience pour piloter cette institution.
Personnellement, je ne reproche rien à M. Malonda, mais comme je l'ai dit encore une fois, la perception dans la gestion d'un processus électoral est très importante. Comment M. Malonda est-il perçu par l'opinion? Vous avez suivi les réactions des citoyens, de l'opinion, lorsque cette candidature a été annoncée. Donc, c'est ce que nous voulons éviter. Nous pensons que si on peut arriver à avoir toutes les parties prenantes autour de la table pour pouvoir réfléchir sur les orientations et les grands principes de la gestion ou de la mise en œuvre de notre processus électoral, on pourrait arriver à des solutions qui pourraient arranger toutes les parties prenantes. Donc, si aujourd'hui il y a des candidatures qui sont contestées, c'est qu'il y a précipitation. Alors, il faut repenser les systèmes, arriver à faire en sorte que toutes les parties prenantes aient leur mot à dire, y compris dans la désignation des membres de la CENI. On a tenté une manière de faire. Il y a des menaces, des intimidations. Il y a même des rumeurs de corruption, comme vous avez entendu. Et qu'est-ce qu'on peut espérer des membres de la CENI qui sont désignés sur base de corruption? Qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux par la suite? Et donc, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne pouvons plus nous permettre cette fois-ci de nous embarquer encore avec les mêmes erreurs du passé. Si nous reproduisons le même comportement du passé pour le processus à venir, eh bien, nous ne pouvons pas espérer d'autres résultats que ce qu'on a connu.
Vous êtes à l'écoute de Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro Bishop Abraham Djamba, président de la CIMOCEL. Avec lui, nous parlons à présent des irrégularités enregistrées lors du dernier processus électoral. Revenons un peu sur le dernier processus électoral de 2018. Vous étiez au cœur de l'observation électorale avec la Cimoncel. Qu'avez-vous documenté comme irrégularité qui aujourd'hui motive votre démarche?
Les irrégularités, il y en a eu beaucoup. Mais nous avons aussi noté certaines faiblesses structurelles au niveau de la CENI. Nous avons noté aussi certaines faiblesses, certaines lacunes au niveau de la législation. Et c'est cet ensemble de choses qui a fait que l'analyse que nous en avons faite a conduit à ce que nous puissions proposer la réforme de la CENI. Vous savez, dans un processus électoral, lorsque les organisations d'observation des élections se sont exprimées, lorsque les parties prenantes s'expriment à la fin d'un processus électoral, on ne peut pas ignorer cela. On doit s'asseoir pour donner des réponses aux questions qui ont été soulevées, aux analyses qui ont été faites. Par exemple, au niveau de la CENI, outre le fait qu'il y a toujours contestation lorsqu'il y a désignation des membres de la CENI, nous voyons qu'il y a de l'opacité dans le processus de désignation. Vous regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui, je crois que vous êtes journaliste, vous aurez pu être ou dû être au courant d'un processus de désignation des membres de la CENI qui était déclenché. Mais quand est-ce qu'on a su qu'il y avait un processus déclenché? Lorsque le scandale a éclaté. Cette manière de faire n'est pas bonne, parce que c'est de l'opacité. Donc, il s'agit de désigner le président d'une des plus importantes institutions d'appui à la démocratie. Eh bien, tout le peuple congolais devrait être au courant du déclenchement du processus. Donc, le processus lui-même de désignation est opaque. Nous avons noté, par exemple aussi, que dans le fonctionnement de la CENI, il y a comme une certaine partialité. Vous regardez à notre rapport, page 34, 35, 36, vous verrez que l'opinion perçoit la CENI comme étant inféodée au gouvernement ou aux partis politiques. Et donc, ça, c'est aussi une faiblesse qu'il va falloir corriger. Comment arriver à donner à la CENI toute son indépendance, son intégrité, sa transparence? Et donc, c'est toutes ces questions-là. Et essentiellement, comme je l'ai dit, il est question d'évaluer ce qui s'est passé en 2018, pourquoi pas remonter jusqu'en 2006, évaluer froidement et pouvoir donner des réponses pour soit rectifier ce qui a rectifié, soit alors améliorer ce qui a amélioré. Et regarder aussi si, dans la manière de fonctionner et d'organiser la CENI, notre législation et la pratique rencontrent les standards internationaux.
On a déploré le fait que les résultats rendus publics par la CENI ne soient pas conformes à la vérité des urnes. Pensez-vous que dans le choix des animateurs de la CENI, il peut y avoir une influence des changements des résultats finaux des élections?
Bon, ça c'est une opinion qui a été exprimée. Lorsqu'on on évalue, comme je l'ai dit, une CENI, on regarde à toutes ces questions-là. Parce que vous voyez, le premier critère en fait, c'est quoi? C'est l'indépendance. Un autre critère, c'est l'intégrité. Un autre, c'est la transparence. Et on peut ajouter la redevabilité, la responsabilité, tout cela. Et donc, si on peut arriver à déterminer que dans les chefs des animateurs de la CENI, il n'y a pas de l'intégrité, eh bien, on peut se poser des questions. Mais il faut donc une évaluation pour savoir si il y a intégrité ou pas. Et donc, cette question, justement, démontre que nous ne devons pas nous voiler la face, nous ne devons pas éviter de pouvoir creuser la question, approfondir la question. Et ça, c'est encore un appel que nous lançons ici à l'Assemblée nationale, parce que si cette Assemblée nationale est représentative des citoyens, elle doit donc nous écouter. Parce que on ne doit pas faire fi de revendications et même des observations que les citoyens sont en train d'avancer sur le processus électoral et aller de l'avant. Ça serait faire un forcing qui serait vraiment déplorable pour le processus à venir. Le processus électoral, c'est une affaire de tous. ce n'est pas une affaire d'un groupe, une affaire d'un parti politique ou d'une partie de la population. Il vaut mieux que toutes les parties prenantes, les citoyens, les partis politiques, majorité, opposition, se mettent d'accord sur ce qui doit être fait pour que nous puissions avoir un processus apaisé et crédible.
Dans votre dernier rapport, vous aviez plaidé pour une réforme en profondeur du système électoral congolais. Quelles sont, à votre avis, les actions prioritaires à amorcer afin d'assurer davantage la crédibilité du prochain processus électoral?
Bon, les aspects prioritaires, je ne sais pas si on peut en parler ainsi. Pour nous, il faut une réforme profonde. Et cette réforme prend justement plusieurs aspects qui sont liés aussi les uns aux autres. Par exemple, si nous disons qu'il faut réinstaurer le deux tours, il va falloir aussi aller voir ça dans la Constitution. Sur les partis politiques, il va falloir aussi aller voir la loi sur les partis politiques, etc. Et donc, nous pensons qu'il y a un travail de fond à faire par rapport à tous les processus. Donc, le cadre juridique du processus doit être revu. La Cour constitutionnelle, etc. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de contentieux. Mais la priorité devrait être la CENI. Donc, la loi sur la CENI, pour permettre à celle-ci de commencer déjà à travailler et à pouvoir poser déjà les premiers actes pour le déclenchement du processus. Il doit commencer déjà à planifier, à réfléchir sur son calendrier, etc. Et donc, la priorité pourrait être la CENI, mais j'insiste pour dire que tout est en lien. On va réformer la loi sur la CENI, il faudrait aussi regarder rapidement aussi la loi électorale elle-même, parce que vous avez vu, les résultats n'ont pas été publiés bureau de vote par bureau de vote, ce qui est une évidence, étant donné qu'une des caractéristiques d'une CENI de qualité, c'est la transparence. Mais vous entendez très bien les animateurs de la CENI affirmer qu'il n'y a aucune disposition qui les contraint à cela. Il est donc impérieux de pouvoir rentrer dans la loi pour pouvoir affirmer cette exigence de pouvoir publier les résultats des bureaux de vote de manière tout à fait détaillée.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro Bishop Abraham Djamba, président de la CIMOCEL. Avec lui, nous parlons à présent de la nécessité de la réforme du système électoral congolais. Nous sommes déjà 2020 et pratiquement dans 3 à 4 ans, il faudrait aller tout de suite aux élections. Mais pendant ces temps, le dernier processus est encore en cours parce qu'on n'a pas encore débuté les élections locales. En même temps, l'ancien bureau est déjà fin mandat depuis 2019. Ne pensez-vous pas que faire précéder toutes ces réformes avant la mise en place des prochains animateurs de la CENI est une façon de signer un manque d'élections dans les prochaines années?
Non, nous disons qu'il est encore temps. On a vu ici dans ce pays des réformes qui sont intervenues à quelques mois des élections. C'est ce qu'on a toujours connu. On n'a jamais eu une réforme qui a été déclenchée suffisamment à temps pour qu'elle soit vulgarisée, que les parties prenantes aient le temps de pouvoir l'intérioriser et tout cela. Mais justement, c'est pourquoi nous sommes en train d'insister pour qu'on commence, qu'on ne perde plus de temps. Il y a des propositions de loi qui ont été déposées. On peut les examiner. Il faut la réforme de la CENI avant la mise en place des animateurs parce que le système peut changer. On peut déboucher sur tout à fait une autre configuration. Comme le mode actuel de désignation est décrié, on peut déboucher aussi tout à fait un autre mode. Vous voyez? Et donc ces questions-là peuvent être abordées rapidement. on peut arriver très rapidement se mettre d'accord sur ce qu'il faut réformer à ce niveau-là et on libérerait déjà la CENI. On pourrait alors, de manière assez posée, aborder alors la question de la réforme de la loi électorale elle-même. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas très bien marché. Vous savez, les seuils de représentativité. Jusqu'aujourd'hui, il y a des partis politiques qui ont perdu, mais qui ne savent pas comment ils ont perdu. L'opacité qui a entouré, si vous voulez, les calculs autour de ces seuils de représentativité. Il y a la question de l'accès aux éléments de preuve pour les candidats. Donc, si l'accès aux éléments de preuve n'est pas facilité, eh bien, il y aura toujours des contentieux électoraux qui seront toujours à sens unique. Et toutes ces questions-là, il faut les aborder. Mais on peut hiérarchiser, effectivement, en commençant par la réforme de la CENI, parce que tous les éléments sont déjà là. Mais seulement, du point de vue des organisations qui ont observé le processus électoral, nous insistons pour dire que cette fois-ci, il ne faudrait pas que ce soit la réforme des uns contre les autres, la réforme des puissants contre les faibles. Il faut que tout le monde puisse participer. C'est ainsi que nous avons suggéré l'idée du forum et que nous proposons donc ce forum national sur les réformes électorales préalable à la réforme elle-même, proprement dite. Donc il faut que les parties prenantes se mettent d'accord sur les idées, sur la pensée de la réforme, sur les orientations, que se mettent d'accord. Et à partir de ce moment-là, on peut alors très facilement arriver à formuler, si vous voulez, les dispositions légales qui pourraient régir la CENI et toutes les autres étapes du processus électoral. Nous disons qu'il faut absolument que cela se fasse parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, je vous assure, nous aurons des élections pires que ce que nous avons eu en 2018.
Alors, une proposition de loi est déjà sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez été associé en amont dans la conception même de cette proposition de loi? Est-ce que vous l'avez lue et vous vous êtes retrouvé? Toutes vos recommandations ont été prises en compte?
Oui, mais ça dépend. Mais notre constitution donne l'initiative de la loi, soit aux parlementaires, soit au gouvernement. Et ici, c'est un député qui a élaboré. Et maintenant, cette proposition va être discutée au niveau de l'Assemblée et puis le Sénat. Mais nous savons que la proposition avait été envoyée au gouvernement pour des annotations. Mais l'idéal, c'est que lorsque l'on élabore la loi, que toutes les parties prenantes s'y retrouvent. C'est ça la participation, c'est ça une exigence clé de la gouvernance qui est la participation. Et donc, les citoyens, à travers peut-être des organisations spécialisées, les partis politiques, le gouvernement, devraient se retrouver autour des partenaires, des parlementaires, pour que les idées soient discutées, de sorte que lorsque la loi sort, qu'elle devienne le reflet des aspirations de toutes les nations. C'est vraiment ça. Et c'est ça la gouvernance. Et nous avons commencé déjà à en parler avec les parlementaires. Nous avons adressé une correspondance à la présidente de l'Assemblée pour lui dire que nous, en tout cas, les organisations des élections, nous souhaitons être là lorsque les lois sont examinées au niveau des commissions parlementaires parce que nous avons des propositions à faire valoir aussi. Nous avons fait des recommandations. Il faudrait que ces recommandations soient reflétées plus ou moins dans la loi. Parce que pour qui légifère-t-on? C'est pour la population. Donc si les décideurs s'enferment pour pouvoir mettre en musique leur propre intelligence, sans tenir compte de ce que les citoyens qui est les détenteurs du pouvoir en démocratie demandent, eh bien à ce moment-là, on aura des lois qui sont coupées de la réalité du pays. Donc l'idéal, c'est que en plus du forum que nous sommes en train de proposer, où toutes les parties prenantes viendraient pour donner leurs orientations, mettre ensemble en tout cas les orientations pour la réforme, que l'on puisse aussi accepter au niveau de l'examen des propositions de loi que les parties prenantes donnent leurs avis.
La toute dernière question, Bishop. Si jamais les décideurs aujourd'hui n'entendaient pas votre avertissement, votre cri d'alarme, si on continuait avec le processus déjà en cours, on désigne les membres de la CENI sans tenir compte du fait qu'on devrait réformer le système électoral en un mot, qu'est-ce que la nation congolaise pourrait craindre de pire?
Ça, c'est une très bonne question. Mais ce que nous disons, c'est que si il y a ce forcing-là pour mettre sur pied, mettre en place les animateurs de la CENI ou les organes de la CENI, eh bien, nous allons continuer à pouvoir convaincre toutes les parties prenantes qu'il faut revenir pour pouvoir réformer d'abord. Et nous avons lancé un appel à tous les citoyens de bonne volonté. Le mouvement est en train de s'amplifier maintenant. Depuis le samedi passé, il y a le cadre de concertation qui est une organisation fêtière et qui comprend plus de 4000 organisations de la société civile à travers le pays, dans toutes les provinces, tous les territoires, etc. Il y a la nouvelle société civile, il y a d'autres organisations, en tout cas les mouvements citoyens. Nous allons cette fois-ci faire en sorte que notre voix soit entendue dans les réformes, parce que nous savons que si on maintient le statu quo, ça serait pour que nous puissions aller dans des élections plus catastrophiques encore en 2023. Et donc, nous sommes convaincus de ça. Notre message, c'est que toutes les parties prenantes se retrouvent ensemble et qu'elles décident ensemble pour dessiner les règles du jeu pour le processus électoral prochain.
Bishop Abraham Djamba, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Fin des grandes interviews sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite avec le concours de Kelly Nkouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Michel Kifindangoy vous l'a présenté. Rendez-vous pour un nouveau numéro samedi prochain. Merci de rester fidèle à Radio Okapi, fréquence de la paix. Au revoir.